Mathieu Laurent au micro, bonsoir à tous. Nous serons en ligne dans un instant de Ouagadougou avec Fanny Noirot, une église catholique est attaquée ce matin par un commando dans le nord du pays, Simor. Nous serons au cœur d'une nouvelle marche pour le climat à Bruxelles. Antoine Geoffin nous livrera les ambitions d'un décret de loi que le site reporter a pu se procurer, décret qui modifie les règles de construction sur les sites classés. Enfin, invité de cette édition, Robert Bertram, directeur de la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie. Il analysera les résultats des élections provinciales, le congrès reste aux mains des non-indépendantistes. Un commando armé a tué 6 personnes dans une église catholique du nord du Burkina Faso. Panique à Dablo, commune de la province de Somananga. Les assaillants ont incendié l'église, puis des boutiques, un restaurant, avant de se rendre au centre de santé et d'incendier le véhicule de l'infirmier chef de poste. Bonsoir Fanny Noirot.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Ouagadougou. Manifestement, ce n'est pas la première attaque d'une église dans le nord du pays.
Non, effectivement. La précédente attaque remonte à il y a peu, c'était il y a 2 semaines tout juste. Et c'était une église protestante qui avait été visée avec un bilan de 4 personnes tuées, le pasteur et ses fidèles. Ce n'est donc pas une première, mais c'est une première pour les églises catholiques, ce matin, qui a été visée. C'est aussi inédit pour le Burkina Faso, qui est un pays normalement cité en modèle pour ce qu'on appelle la coexistence religieuse. Vous savez, ici, à chaque fête, à chaque rassemblement religieux, par exemple Noël ou encore l'Aïd, eh bien, les représentants des autres religions sont présents. Les mariages qu'on appelle ici mixtes sont également monnaie courante. Et même si le pays fait face à une situation sécuritaire difficile ces dernières années, bien jusqu'ici, ce modèle tient. Et c'est peut-être cela qui a été visé ce matin, que l'on veut en tout cas déstabiliser, que les terroristes veulent déstabiliser. C'est une des particularités du Burkina. Ce modèle, en tout cas, les Burkinabés, eux, y veillent. Depuis ce matin, sur les réseaux sociaux, on peut lire de nombreux appels à l'unité avec des messages forts. Non, ils ne nous diviseront pas.
Merci à vous, Fanny Noirot, en direct de Ouagadougou. Attendre, il va falloir attendre 1 ou bien 2 semaines pour prendre acte du transfert d'autorité dans les 3 ports yéménites que les Houthis se sont engagés à évacuer. Engagement conforme aux accords d'Odeida signés en décembre dernier en Suède. Et selon l'ONU, dont les équipes ont surveillé les faits et gestes des effectifs Houthis, eh bien tout se déroule comme annoncé avant-hier soir. Au Soudan, le report à demain des discussions entre l'armée et le mouvement de contestation. Des milliers manifestants campent depuis des semaines devant le QG de l'armée à Khartoum pour demander au conseil militaire qui a pris les rênes du pays après l'éviction du président Omar el-Béchir de céder le pouvoir à une administration civile. 52 réfugiés africains ont escaladé au péril de leur vie la haute clôture de Barbelé qui fait frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. Ils étaient à l'origine plus de 100 à prétendre demander l'asile en Europe. Des milliers de personnes dans les rues de Bruxelles à brandir l'article 23 de la Constitution qui garantit le droit à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Concrètement, un climat sain, un travail décent, l'égalité des droits, des soins de santé abordables, une politique de migration humaine et ne pas avoir à se plier en 4 tous les mois pour survivre. C'est une nouvelle marche au chevet du climat suivie par Lakshmi Lotha.
Les slogans ne changent pas, plus chaud que le climat. Mais dans la manifestation, on entend aussi ceux des syndicalistes.
Tous ensemble, tous ensemble.
Fin du monde et fin de mois ne s'opposent pas ici.
C'est le moment de la convergence des luttes, oui.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien qu'on se dispute. Et ce qui est gai, c'est que maintenant, on voit que les gens communiquent entre eux. Et donc, il n'y a plus cette dispute entre les écolos d'un côté, les gens qui veulent terminer la fin du mois derrière.
L'exploitation de la nature, n'importe comment, à n'importe quel prix, pour rentabiliser n'importe quoi, fait que les plus pauvres sont les premières victimes. Et même, ça fabrique des pauvres.
Côte à côte, des personnes âgées, des infirmières, des jeunes.
En 1968, on se battait pour nous. Maintenant, on se bat pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous, les vieux d'aujourd'hui, on se bat pour l'avenir des vieux de demain.
En Belgique, c'est très porté par les jeunes. C'est vraiment les jeunes, comme vous l'entendez, qui prennent tout en main ici, quoi.
Dans les rues également, de nombreuses familles.
En famille, c'est mes petits-enfants. Il y a les élections, donc ça semble un moment important.
Lui, il a un peu de mal parce qu'il sort de sa sieste. Mais
plus jeune âge, là, quel âge ?
Lui, il a 2 ans. Le grand frère, là, il a 4 ans et on lui explique et il comprend quand même déjà certaines choses.
Il y aura encore 2 marches pour le climat avant les élections fédérales, régionales et européennes en Belgique.
Des membres du collectif Extinction Rebellion ont, eux, déversé du faux sang cet après-midi sur les marches du Trocadéro à Paris pour alerter contre le déclin accéléré de la biodiversité. La dune du Pilat, le massif du Mont-Blanc, les gorges du Verdon ou encore les calanques de Marseille, la France compte 2700 sites classés pour y construire aujourd'hui. Il doit d'abord y avoir une instruction locale, puis la demande de construction, d'aménagement est transmise au ministère de la Transition écologique et solidaire qui donne ou non son aval. Le journal Reporter, spécialiste de l'écologie, s'est procuré un décret ministériel. Bonsoir Antoine Geoffin.
Bonsoir Mathieu.
Antoine, ce texte prévoit très simplement de modifier ces règles.
Oui, pour, je cite, simplifier le processus de délivrance des autorisations de travaux. Le feu vert serait désormais donné par les préfets de département sans regard automatique du ministère. Problématique, estime Julien Lacaze, vice-président de l'association Sites et Monuments.
Vous pouvez avoir un entrepreneur local qui a envie, par exemple, de construire une très belle maison dans un site préservé qui se produit, par exemple, assez souvent en Corse. Donc là, on peut avoir des pressions de quelqu'un qui est effectivement bien, voilà, très bien introduit localement. Et puis, on peut avoir aussi, je dirais, des stratégies de développement touristique qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire faire un hôtel, des aménagements touristiques afin de profiter économiquement d'un site classé tout en le dégradant malheureusement.
Avec le décret, le ministère de la Transition écologique pourrait toujours utiliser ce qu'on appelle l'évocation. Pour certains travaux particulièrement sensibles, médiatiques, importants, il reprendrait la main, un garde-fou pourtant insuffisant pour Julien Lacaze.
Quand on avait attaqué, par exemple, la présence de la Grande Roue, place de la Concorde, qui est le terrain classé au titre des monuments historiques, on a tout de suite demandé au ministre d'évoquer le dossier, en lui disant, voilà, c'est un patrimoine d'importance nationale, avec la grande perspective parisienne, c'est un enjeu national, nous vous demandons d'évoquer le dossier, de trancher vous-même le dossier. Évidemment, le ministre s'est bien gardé de le faire, le ministre est plus enclin à se défausser de dossiers délicats à trancher, avec des pressions, avec des gens, effectivement, qui ont une certaine importance et qu'on ne veut pas heurter. Et donc malheureusement, cette possibilité d'évocation n'est pas un rempart suffisant.
Le texte doit être discuté le 23 mai par la Commission supérieure des sites qui rendra un avis consultatif. Le décret, lui, pourrait être pris dans la foulée en juin.
Merci à vous, Antoine Geoffin. Le groupe Bayer annonce ce dimanche avoir chargé un cabinet juridique extérieur d'enquêter sur la constitution par sa filiale Monsanto d'un fichier de personnalité en France en fonction de leur position sur les pesticides. Le groupe Europe Écologie Les Verts ainsi que France Télévisions ou encore Radio France vont porter plainte. Venons-en au nouveau rapport de force au sein des institutions locales en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes échouent à ravir la majorité à leurs rivaux et la droite modérée perd du terrain. Les précisions de notre correspondante en Nouvelle-Calédonie, Sarah Maquet.
La victoire principale revient à la formation de Sonia Backès, l'Avenir en Confiance, une coalition de 3 partis de droite menée par les Républicains calédoniens. Ils prennent 18 des 54 sièges du Congrès. La droite modérée de Calédonie Ensemble, le parti majoritaire dans le gouvernement sortant, elle s'effondre et passe de 15 à 7 sièges. Au niveau, par contre, de la dynamique générale du Congrès, il n'y a pas de grand changement. Les non-indépendantistes restent majoritaires avec 2 sièges de plus que les indépendantistes. C'est l'écart le plus serré entre les deux formations depuis la mise en place de cette organisation électorale par province il y a 30 ans. Cette élection, ce dimanche, enregistre le taux de participation le plus bas pour les élections provinciales, 66,46%, loin des 80% de participation au référendum sur l'indépendance organisé ici il y a 6 mois. Un référendum qui avait donné espoir aux indépendantistes de prendre le Congrès. Espoir déçu ce soir. Enfin, à noter la percée d'un parti communautaire, l'Éveil océanien, destiné à rassembler l'électorat wallisien et futunien de Nouvelle-Calédonie. Paris réussi pour son leader, Milakulo Tukumuli, qui prend 3 sièges dans le nouveau congrès. Les élus ont maintenant 3 semaines pour constituer les 3 assemblées provinciales de Nouvelle-Calédonie et mettre en place un nouveau gouvernement selon les règles de la représentation proportionnelle.
Quels enseignements tirer de ce scrutin ? Nabil Hamel a sollicité Robert Bertram, directeur de la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, joint à Nouméa.
Les premières impressions que l'on a, c'est que le parti Calédonie Ensemble s'est effondré
au profit de la nouvelle alliance qu'il y a eu avec l'Avenir en Confiance, trois partis réunis pour partir à la aux élections provinciales. Au sein du parti non indépendantiste, il y a Calédonie Ensemble, le Rassemblement qui est issu du RPCR de Jacques Lafleur et des petits partis qui sont venus se créer à la suite de l'effacement de Jacques Lafleur. Donc, au sein de ce groupe non indépendantiste, Calédonie Ensemble avait la maîtrise des institutions. Et depuis qu'il avait la maîtrise de ces institutions, il a été comptable de son mandat, de ses mandats, et il a été rejeté par les Calédoniens pour des fautes, pour des gestions peut-être difficiles dans les moments. Il faut savoir que le cours du nickel s'est effondré, il faut savoir que la vie économique est extrêmement chère, etc. Et donc, ils sont comptables des bilans. De l'autre côté, les non-indépendantistes qui se sont mis au sein de l'Avenir en Confiance, qui représente trois partis, ont raflé la mise. Ce que l'on peut ensuite noter, c'est l'émergence d'un parti communautaire wallisien futunien qui sort son épingle du jeu et qui a réussi à faire 5% des inscrits et il est éligible à la province sud et au congrès.
Quelle lecture peut-on faire de l'émergence de ce parti communautaire?
Les Wallisiens et Futuniens ont toujours été aspirés par les autres partis pour faire la pointe. Et là, il y a un leader qui a voulu faire de cette activité communautaire, de cette présence communautaire, un atout pour obtenir des élus de façon à pouvoir ensuite pouvoir négocier au sein des institutions pour faire passer ses idées, qui sont surtout sociales. Les inégalités sociales, etc.
Côté indépendantiste, il y avait une poussée lors du dernier référendum. Aujourd'hui, quid de cette poussée?
Alors, il y a eu, le 4 novembre, pour le référendum pour ou contre l'indépendance, une très forte participation de tous les électeurs, et notamment au sein du groupe indépendantiste, avec un vote conséquent des jeunes. Ça, c'est une chose. Donc, c'est un vote identitaire, et les indépendantistes kanak ont voté très massivement pour l'indépendance. Là, l'enjeu se dilue au sein des différents partis. Donc, chaque parti est parti à la bataille, même s'ils disent qu'ils sont ensemble, ils font valoir une politique qui est beaucoup plus bénéfique pour les électeurs que le voisin. Et ce que j'en ressens, hein, ils n'ont pas été suivis par la jeunesse qui est d'accord pour l'indépendance, mais qui n'est pas du tout d'accord avec les anciens, la façon de conduire une politique, etc. Au sein de la communauté mélanésienne, un ancien a une forte valeur ajoutée, alors qu'un jeune peut aller jusqu'à 40 ans, il est toujours jeune. Donc c'est toujours très difficile de pouvoir s'insérer dans la vie sociale ou dans la vie politique tant que les anciens sont là. Ils bloquent un petit peu les postes. Et là, ils n'ont pas voulu participer à ce système et ils se sont un petit peu désengagés au niveau du vote, puisqu'on a une participation assez faible, même très faible, qui est de 66 à 67%. C'est faible.
Et dans le cadre donc des accords de Nouméa, qu'est-ce que cela dit, cette élection?
Les assemblées qui vont être mises en place dans le courant de la semaine prochaine vont durer donc 5 ans jusqu'à la fin des 2 référendums qui doivent intervenir en 2020 et 2022. Comme c'est la dernière mandature de l'accord de Nouméa, c'est les forces politiques actuellement élues qui vont discuter directement avec Paris. Donc, Calédonie Ensemble est extrêmement diminué puisqu'il a perdu beaucoup de sièges et c'est l'Avenir en Confiance qui prend la main et qui va pouvoir être prise en considération au niveau de Paris pour discuter de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Robert Bertram, directeur de la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, il répondait aux questions de Nabila Hamel. Au moins 300 yaks sont morts de faim dans la vallée indienne du Mukutang, dans l'état du Sikkim, à l'extrême nord-est de l'Inde, entre Népal, Chine et Bhoutan. L'hiver est si rude que les autorités n'ont pas pu atteindre les habitants de la vallée et les yaks n'ont pas survécu, faute de fourrage. Quelques mots de la météo de demain lundi pour la France métropolitaine. Temps calme et ensoleillé, mais encore frais le matin. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.